avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après le coup de semonce du 22 mars, place au combat. Coup d'envoi aujourd'hui de la grève perlée à la SNCF contre la réforme du gouvernement. Un mardi noir pour les usagers, sur les rails et dans les airs notamment. Il y a presque autant de revendications que de mouvements. Nous ferons un point sur les motifs de la colère sociale dans un instant.
Il y a des convergences syndicales, mais il est encore trop tôt pour parler de convergence des luttes. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans le billet économique à la fin de ce journal.
Auparavant, focus sur la République démocratique du Congo, journée ville morte aujourd'hui. L'opposition dénonce le maintien au pouvoir de Joseph Kabila depuis décembre 2016. Et puis nous irons à Mossoul, en Irak, où la vieille ville de l'ancienne capitale autoproclamée du groupe État islamique commence à panser ses plaies et l'on entend de nouveau de la musique.
Et puis oui, Catherine, l'a-t-il tué ou l'a-t-il sauvé? Je veux parler du streaming. Le streaming a-t-il tué ou sauvé le marché de la musique? On posera la question au sociologue Jean-Samuel Beuscard. Ça sera dans une quinzaine de minutes.
Seul un TGV sur 8 en circulation aujourd'hui, un TER et un Transilien sur 5 annoncés, des branches du RER en Île-de-France qui ne seront pas desservies. Les cheminots donnent le ton de cette grève au long cours qui commence donc aujourd'hui contre le projet de réforme de la SNCF voulu par l'exécutif malgré des modalités différentes et l'on va y revenir. La CGT, l'UNSA, Sud et la CFDT sont tous lancés dans la bataille du rail. Les raisons de la contestation avec Hakim Kasmi.
Transformation de la SNCF en société anonyme à capitaux publics, fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants, autant de raisons qui inquiètent les syndicats qui refusent la réforme imposée par le gouvernement. Une réforme qu'assume la majorité, puisque Emmanuel Macron avait préparé les esprits avant même d'être élu durant sa campagne. Du côté de l'exécutif, on veut aller vite, d'où le recours aux ordonnances pour faire passer le projet de loi en force, estiment les syndicats. Pour Matignon, il y a urgence avec l'ouverture à la concurrence imposée par Bruxelles. Ce qui aura pour effet de désavantager les usagers, selon les syndicats, qui estiment que les prix vont augmenter et que les lignes les moins rentables seront fermées, car plus subventionnées par l'État. Pour tenter de limiter la grève, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a finalement accepté de revenir en arrière sur le fameux sac à dos social, c'est-à-dire que les salariés de la SNCF, qui basculeraient dans le privé en cas de perte d'un appel d'offres, pourraient garder leur statut à l'exception des nouveaux entrants. Insuffisant pour les partenaires sociaux qui réclament le retrait du projet de loi. Si le gouvernement indique qu'il ne cédera pas, le bras de fer s'annonce déjà très long puisque le mouvement doit s'étaler jusqu'à la fin juin, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l'opinion publique.
Et une grève peut en cacher une autre. Sudrail, le troisième syndicat à la SNCF, propose, au-delà de la grève perlée de 2 jours sur 5 d'ici fin juin, il propose une grève illimitée reconductible par 24 heures, Maxime Deps.
Ce que veut Sudrail, c'est donner la possibilité aux cheminots de choisir comment ils comptent s'opposer au projet et du gouvernement et de la direction de la SNCF. Un projet de découpage et de démantèlement pour Fabien Villedieu qu'il faut combattre avec force, quitte à rajouter une grève dans la grève.
On se dit qu'avec un gouvernement aussi dur que Macron, peut-être qu'à un moment donné, il faudra faire un peu plus que 2 jours. Ce qui est important, c'est que la grève, quelle que soit la forme qu'elle aura, elle soit suivie et qu'elle soit forte.
Et fort, le mouvement le sera d'autant plus dans les prochains jours, veut parier ce syndicaliste avec la colère qui monte de partout, chez Air France, chez les éboueurs, chez les électriciens. Ce que promet Sudrail à l'exécutif, c'est un concentré. Mai 68, décembre 95, un cocktail des deux qui poussera forcément le gouvernement à reculer.
Une grève suivie qui s'élargit. Il n'y a aucun gouvernement qui peut y faire face. Vous imaginez, en 68, De Gaulle, il a dû reculer. Alors Macron, c'est quand même pas De Gaulle.
Dans un premier temps, pour ça, il faudra rassembler. Sudrail le sait et appelle dès aujourd'hui à manifester à Paris entre la gare de l'Est et la gare Saint-Lazare. Les étudiants, notamment, sont cordialement invités à grossir les rangs.
Car d'autres foyers de tension sociale couvent, sans être massives pour l'instant, la contestation contre la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur s'étend. 18 organisations de jeunesse appellent à rejoindre aujourd'hui les mobilisations sociales. De son côté, la CGT Mines Énergie rejoint les inquiétudes des cheminots sur la libéralisation du marché. Elle calque même son calendrier sur la bataille du rail. Dans son cas, donc pour le gaz et l'électricité, grève jusqu'au 28 juin. Grève par ailleurs du ramassage des déchets, toujours à l'appel de la CGT. CGT qui réclame notamment une reconnaissance de la pénibilité du travail des éboueurs, des perturbations à Paris, Marseille, Montpellier dès aujourd'hui. Et puis chez Carrefour et chez Air France, le conflit sur les hausses de salaire s'enlise. Nouvelle journée de grève aujourd'hui avant celle prévue samedi puis la semaine prochaine. Et le gouvernement doit-il craindre une coagulation des contestations? Il doit en tout cas se méfier, selon le politologue Jérôme Sainte-Marie, directeur de l'Institut de sondage Pollingvox.
Un mouvement de grève dans les transports, les trains notamment, prend rapidement l'allure d'une grève générale, puisque ça affecte l'ensemble de l'activité du pays. Et donc, rapidement, les Français se retournent vers le gouvernement pour lui demander des comptes, pour lui demander justement qu'est-ce qu'il compte faire contre ce blocage. Ça a été une des raisons de l'impopularité d'Alain Juppé et de Jacques Chirac en 1995. Donc il peut y avoir un mouvement d'opinion, d'autant plus que se produisent actuellement, et ça c'est original par rapport à 1995, des mouvements dans le secteur privé, je pense notamment à la grève chez Carrefour. Il faut deux choses pour qu'un mouvement social l'emporte. D'une part, il constitue une gêne réelle pour le fonctionnement de l'économie, et ça sera sans doute le cas, et d'autre part, qu'il menace de se propager. Si par exemple on commence à voir apparaître des grèves dans le secteur privé en plus grand nombre, il y aura sans doute des pressions qui seront faites sur le gouvernement pour qu'il relâche un petit peu sa volonté réformatrice. On avait eu ce cas il y a fort longtemps, en 1986, lors du mouvement étudiant. Ce qui avait fait reculer le gouvernement, c'était pas seulement la mort de Mike Kousekine, c'était aussi le fait qu'il commençait à y avoir des grèves dans les entreprises publiques et privées.
Jérôme Sainte-Marie, directeur de l'Institut de sondage Pollingvox, joint par Stéphane Robert. Un coin de l'horizon social s'éclaircit en revanche pour le gouvernement avec la levée des barrages à Mayotte après 7 semaines de mobilisation. La décision a été prise hier entre l'intersyndicale et le collectif contre l'insécurité, et ce malgré la désapprobation des responsables locaux des barrages, des responsables qui estiment être encore loin du compte en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine. Alors il a fallu convaincre Zuhri Hamza.
Il a fallu plus de 5 heures de discussion, parfois très houleuse, avant d'acter la levée des barrages, mais pas la fin de la grève. Une décision loin de faire l'unanimité au sein des meneurs du mouvement. Les responsables des barrages ont été les premiers à claquer la porte en criant à la trahison.
Ils ont décidé de suspendre le mouvement sans qu'on ait rien eu. Nous, on ne veut pas grand-chose. On veut tout simplement que l'État prenne ses responsabilités devant cette situation. L'immigration clandestine, il faut que l'État règle ce problème avec la diplomatie comorienne.
L'immigration clandestine, tout comme l'insécurité, des mesures d'urgence qui doivent être mises en œuvre dans un climat apaisé, d'où la nécessité de lever les barrages. Une décision qui n'a pas été facile à prendre. Fatiou Ibrahim, porte-parole du collectif contre l'insécurité.
Nous nous y attendions. Il y a de la souffrance sur ce pays. Et nous qui avons mené le mouvement, nous sommes peut-être les premiers à mesurer la souffrance des Mahorais. Toutefois, à un moment donné, il faut savoir aussi lever le pied, parce que quand les barrages commencent à devenir impopulaires, on ne peut pas continuer en ce sens.
Les barrages, une forme de pression qui doit laisser place à d'autres actions, puisque le mouvement reste maintenu, en attendant de voir si l'État tiendra ses engagements.
Le reportage de Zouria Hamza pour Mayotte la Première et France Culture.
7h08, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins de France Culture. La Suisse abrite aujourd'hui une conférence des donateurs sur le Yémen, un pays en guerre et en plein chaos.
Une situation humanitaire désastreuse depuis plus de 3 ans, choléra, famine. La crise politique dans cet état de la péninsule arabique s'est transformée en guerre ouverte, avec notamment l'implication d'autres puissances de la région, et en crise humanitaire. On y revient dans le journal de 7h30. Une journée ville morte aujourd'hui en République démocratique du Congo, une manière pour l'opposition de protester contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila depuis décembre 2016, au-delà de son second mandat, car le calendrier électoral a été plusieurs fois modifié en RDC. Les détracteurs de Kabila parlent de coup d'État constitutionnel, alors que les prochains scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux sont prévus le 23 décembre prochain. Une crise politique doublée d'une catastrophe humanitaire. Plus de 13 millions de Congolais ont besoin d'aide pour survivre, soit 2 fois plus que l'an dernier. Mais que fait la communauté internationale, s'interroge Jean-Jacques Lumumba, le petit-neveu du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba.
Tout le pays est en lambeaux, tout le pays est en difficulté. Les journées vivantes sont toujours d'une importance assez spéciale, parce qu'il est question de rappeler à la population ce qu'elle vit et les difficultés qu'elle rencontre. Donc toute action qui est menée dans un sens pacifique et démocratique pour demander à Kabila d'organiser l'élection, de quitter le pouvoir, ont toujours leur importance et ont toujours leur raison d'être. Donc je pense que ça aidera à faire avancer les choses. L'opposition est brimée, mais moi je retiens que l'opposant du président Kabila, c'est le peuple congolais. Monsieur Kabila a tout fait pour créer une situation ingérable et insoutenable pour une simple raison, pour qu'il montre à la communauté internationale que c'est lui la solution. Mais nous savons que c'est lui le problème. Et le Congo aujourd'hui a besoin d'un changement profond et d'un changement de régime et d'un changement à la tête. Il y a des morts, il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont brutalisés et nous pensons que la France prendra ses responsabilités pour ne pas être un responsable passif de ce qui se passe au Congo.
Jean-Jacques Lumumba, joint par Valérie Crova. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été réélu pour un second mandat de 4 ans avec 97% des voix validées hier. Une élection sans surprise où le seul adversaire du président al-Sissi était aussi l'un de ses partisans. Direction Mossoul, à présent en Irak, dans l'ancienne capitale autoproclamée du groupe État islamique reprise par l'armée irakienne en juillet dernier. Si la vieille ville est encore un cimetière à ciel ouvert, ailleurs, dans Mossoul, la vie reprend peu à peu et les habitants commencent à panser leurs plaies. Pour les enfants, des jeux et de la musique par exemple, pour tenter de surmonter leur traumatisme. Le reportage de notre envoyé spécial Géraldine Allot.
Qui aurait pu imaginer cela il y a encore quelques mois? Des élèves qui jouent de la musique dans une école de Mossoul. C'est génial, avant c'était interdit, dit ce garçon, en tapant énergiquement sur le tambour d'une batterie. Zaidan Jawer fait partie de l'équipe de protection de l'enfance au sein de l'ONG ACTED.
Pendant les 3 ans de l'occupation de Mossoul par l'État islamique, tous les instruments de musique étaient interdits. C'est très important que les élèves apprennent qu'il y a un art qu'on appelle musique. Ils ne le savent pas forcément car ils sont jeunes et la musique a été bannie pendant 3 ans. La musique, c'est un moyen de leur faire penser à autre chose qu'aux destructions et aux tueries.
Dans la cour de l'école, une jeune fille joue au basket avec des garçons. Elle s'appelle Gofan. Sous le règne mortifère de l'État islamique, ses parents ont refusé de la scolariser, horrifiée par ce qu'on lui enseignait.
En mathématiques, ils ne nous apprenaient pas à additionner 1 plus 1. Ils nous demandaient d'additionner les bombes. Pendant les cours d'arabe, ils ne parlaient que de djihad et de la manière de commettre des attentats suicides.
Aujourd'hui, les enseignantes s'habillent comme elles le souhaitent. Elles portent des talons, des manteaux cintrés et colorés et on les entend rire dans les couloirs.
Géraldine Allot à Mossoul pour France Culture. Une pluie d'hommages en Afrique du Sud pour Mama Winnie. Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela. Cette héroïne de la lutte contre l'apartheid est morte hier à l'âge de 81 ans. Son parcours terni par plusieurs dérapages politiques, des affaires de corruption. Et puis en 1998, la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud l'avait déclarée coupable politiquement et moralement d'énormes violations des droits de l'homme commises par sa garde rapprochée. Des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps.